Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International et merci d'être au rendez-vous de cette émission exceptionnelle consacrée aujourd'hui au lauréat du 10e prix, Marc-Vivien Fauet.
Marc-Vivien Fauet, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun.
Il est le meilleur buteur de son club, le SCO d'Angers. Et sous le maillot numéro 7, il a réalisé la meilleure saison de sa courte carrière. Il est champion d'Afrique avec le Cameroun. Et il est aujourd'hui, pour le jury RFI France 24, le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Karl Toko Ekambi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Et bravo.
Merci.
Bravo, applaudissements de notre jury, de vos admirateurs, beaucoup aussi d'applaudissements du côté d'Angers et j'en suis sûre aussi de nombreux auditeurs africains. En tout cas, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, aujourd'hui, eh bien, l'émission sera une chance de vous connaître, de vous découvrir et je serai, eh bien, en cela aidée dans ma tâche par Habib Bey qui est à vos côtés, notre international, ancien international sénégalais, lui aussi un joueur africain. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
En face de vous, il y a Olivier Prom, bonjour Olivier.
Bonjour Annie, bonjour à tous, bonjour Karl.
Bonjour.
Le service des sports représenté aussi par Christophe Jousset, bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous et en particulier à notre lauréat et félicitations.
Et puis bonjour, Alejandro merci. Valente qui est là aujourd'hui, bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous et bonjour à Karl.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Radio Foot, c'est parti. Alors Karl Toko Ekambi, vous êtes donc le meilleur joueur africain de la saison, auteur de 17 buts pour le club d'Angers. Et justement, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que d'abord vous étiez dans le trio gagnant, le trio qui terminait cette liste, il y avait une vingtaine de candidats à ce prix Marc-Vivien Fauet, et surtout quand vous avez su que vous étiez le lauréat?
Bah, j'étais très fier. J'étais très heureux d'être élu meilleur joueur africain de Ligue 1. Et après, je l'ai su avec un coup de fil de Alejandro. Et voilà. Après, je pense que c'est le résultat d'une saison dure et le fruit d'un travail acharné. Et je pense que c'était mérité.
Marc-Vivien Fauet a donné ce nom à ce prix. Il fut international camerounais. Vous êtes aussi camerounais. Vous êtes d'ailleurs le premier camerounais à être dans ce palmarès du prix Marc-Vivien Fauet. Vous n'aviez qu'à peine plus de 10 ans quand est survenu malheureusement son décès sur une pelouse. Vous avez un souvenir du joueur ou vous avez peut-être un souvenir de ce moment-là aussi?
Oui, j'ai le souvenir parce que mon père, c'est un grand fan de foot et donc on regardait tous les matchs à la maison et j'ai vu ce match-là en direct, donc j'ai des souvenirs très 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 clairs de cet épisode-là et voilà, on était tous tristes mais bon après maintenant je suis fier d'être le premier Camerounais à pouvoir honorer la mémoire de Marc-Vivien Fauet.
Habib Bey, un premier commentaire de votre part sur l'attribution de ce prix Marc-Vivien Fauet.
Bah, c'est déjà tout à fait mérité pour Karl, parce que lorsqu'on voit sa saison, il faut jamais oublier que ses stats sont assez exceptionnels, 17 buts, et il est même pas au Paris Saint-Germain, il est même à Angers. Alors c'est pas pour minimiser l'apport de ses coéquipiers, mais c'est-à-dire que lorsque vous brillez dans une équipe qui est à la lutte pour le maintien, ce qui était le cas pour Angers, ça montre aussi la performance de Karl et surtout sa progression, parce que lorsqu'on parle de Karl, on parle de progression, et c'est aussi le but d'un jeune joueur. Alors même si aujourd'hui, je crois qu'il a 25 ans, je crois que lorsqu'on regarde ses statistiques du passé, on voit qu'il évolue, il évolue très très bien, il a été aussi un petit peu replacé. C'était un joueur qu'on cataloguait sur le côté, aujourd'hui je pense que c'est quelqu'un où on peut s'appuyer aussi devant, en pointe, ou éventuellement tourner autour d'un autre attaquant. Donc je crois que ce qui est important de dire, c'est la progression du joueur. Et aujourd'hui, il est justement récompensé par rapport à ça.
On va y revenir justement sur tous ces points. Et pour l'instant, eh bien, un petit résumé de votre saison en son.
Marc-Vivien Fauet, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun.
Prix Marc-Vivien Fauet, RFI, France 24.
Il va gagner le duel en leur déviation magique. Ne pas gratter pour Karl Toko Ekambi. Meilleur buteur du score
qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière.
Je pense qu'il le mérite largement, marquer 17 buts avec un club comme Angers. C'est une performance que peu de joueurs, je pense, sont capables de réaliser. Donc très très heureux pour lui.
Moi j'essaye de marquer à tous les matchs. On sait que des fois c'est possible, des fois que c'est pas possible.
Toko Ekambi face à Trapp. Il lui en faut peu à cet attaquant-là.
Et la voilà, l'ouverture du score. L'homme en forme du score, encore frappé. Karl Toko Ekambi.
Si j'arrive à 20 buts, tant mieux, ça ferait un bon chiffre rond et tout le monde sera content.
Alors 20 buts, c'était pas encore, on y sera bientôt. Alejandro Valente, d'abord un regard sur le palmarès, parce que Karl Toko Ekambi est premier, mais il n'est pas seul sur la liste. Il y a eu d'autres joueurs africains de Ligue 1 qui ont eu des voix aussi.
Il n'est pas seul et au départ, on pensait que ça allait être beaucoup plus serré. Finalement, Karl emporte très largement ce prix avec 264 points. Donc, il devance des 100 points pratiquement. Le deuxième, Wahbi Kasri, le Tunisien de Rennes, qui avait fait aussi un bon parcours cette saison pour son retour en France après son passage en Angleterre. Et puis, troisième, Bertrand Traoré, Burkinabé de l'Olympique des Lyon, qui fait aussi une très belle saison, qui a été un petit peu handicapé par les blessures. Bon, il découvrait la Ligue 1 cette année. C'était pas forcément très facile. C'est un jeune joueur. Il a 61 points. Quatrième, Gaël Kakuta, Congolais d'Amiens, 38 points. C'est un nom prestigieux, mais il n'a pas réussi à la mesure de ce qu'on pouvait attendre peut-être de lui cette saison. Et puis, à cinquième place, il y a un compatriote, André Zambo Anguissa, qui évolue à Marseille et qui fait partie donc de cette belle campagne marseillaise, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Donc voilà un très beau groupe des têtes dans ces classements qui nous satisfait beaucoup, parce que Karl est un excellent joueur, mais si on a l'impression d'avoir quelqu'un de très équilibré, de très très mature malgré son jeune âge, et je pense qu'on va encore avoir beaucoup de surprises à l'avenir avec lui.
Alors Karl Toko Ekambi, qui êtes-vous ? On a beaucoup cherché, on a tous un peu essayé de trouver et de lire des choses sur vous, mais celui qui s'y est attelé, c'est Olivier Pron, et en général, ses portraits sont très piquants.
Non. Bonjour Karl.
Bonjour.
Ça va bien jusqu'ici ?
Ça va très bien.
Karl, c'est marrant ce prénom, on en parlait avec des amis il y a quelques jours, et l'un d'entre eux me disait sûrement que ses parents devaient aimer Karl Lewis. Alors moi j'ai répondu, bah non, banane. Karl, c'est avec un K, comme Karl Marx. Ça vous dit quelque chose, Karl Marx?
Oui, ça me dit quelque chose.
Il jouait dans l'équipe socialo-communiste de l'International. On dit de lui qu'il était un théoricien de la révolution. Là, on s'éloigne un peu de vous. La révolution, c'est pas votre truc, hein.
Non.
Hein, ça, j'ai bien compris. Rien de vraiment révolutionnaire chez vous, si. Donc j'ai bien compris, si ce n'est que si, la révolution de ce prix Marc-Vivien Fauet 2018, c'est que vous êtes le premier Camerounais à l'avoir. Oui. Ça, c'est quand même une révolution. Il a fallu attendre 10 ans. En tout cas, 10 lauréats. Sinon, en termes de jeu, on va dire que la révolution chez vous, c'est la vitesse alliée à la technique. Ça vous va?
Oui, ça me va.
Ah, jusque-là, j'ai bon, tout va bien, il ne s'en ira pas. Des qualités qui vous ont permis à 25 ans, pour votre deuxième saison en Ligue 1, au SCO d'Angers, donc on l'a dit, de marquer 17 buts. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a quand même 4 passes décisives avec, et ça n'est pas anodin, c'est ce que l'on appelle une saison pleine. Vous êtes le premier buteur des autres. Alors les autres, c'est-à-dire le premier buteur en dehors du Paris Saint-Germain, de Monaco, de Lyon et de Marseille. Ça aussi, c'est déjà bien aussi, non?
Oui, c'est bien.
Mieux que Mbappé.
Bon, sinon, 25 ans, on l'a dit, né à Paris 20e, grandi à Paris 13, près de la Porte d'Ivry, licencié au FC Gobelin, parents camerounais, coiffure Jean-Loup Design, pédicure manucure chez Jenny. Tout ça, c'est bidon, bien sûr, sauf les parents camerounais. Ce que l'on sait moins, c'est la carrière de rappeur, hein, la passion, le kiff, quoi, avec les potos, les frères, comme vous les appelez. J'ai lu ça. Le collectif avait de la gueule, Mafia Zotré. Alors pour être honnête, il a fallu que je m'adresse à Guillaume Ploquin, le réalisateur de cette émission, sinon je chercherai encore ce que ça veut dire. Mafia Zotré, c'est un brainstorming avec vos copains, ça veut dire Mafia 13, c'est bon?
Je connais pas Mafia Zotré.
Ah bah alors c'est ce qu'on m'avait dit, pourtant vous connaissez pas, vous avez oublié.
Non, j'ai oublié.
Mafia Zotré, 13 pour l'arrondissement, et le nom de rappeur, vous connaissez pas non plus, vous l'avez oublié?
Non, pas du tout.
MC Loca.
Ça me dit rien.
Ouais, bien sûr. Et l'idole, alors c'est là où on va s'éloigner carrément, vous et moi. Votre idole, c'est Booba? Ça vous dit quelque chose?
Non plus.
Ah d'accord, je suis pas content. Bah, finalement, on se rapproche. Jusqu'ici, tout va bien. Franchement, c'est le mieux joueur de foot, non?
Vous avez raison.
Joueur de foot, buteur en Ligue 1 et en sélection aussi. Hein. Le gars est quand même champion d'Afrique en titre, hein, les amis. On l'a dit aussi avec les Lions indomptables. C'était en 2017 à Libreville. 2-1 contre l'Égypte de Mohamed Salah. Et quand même, vous êtes meilleur joueur africain de Ligue 1. Lui, il est meilleur joueur tout court de Première Ligue. Mais en finale, c'est vous et les Camerounais qui l'avaient battu. Les Lions indomptables, ceux qui doivent défendre leur titre chez eux dans un an, même si tout indique que ce sera ailleurs, enfin surtout l'avancée des travaux. Ceux qui n'ont toujours pas de sélectionneur, malgré une shortlist de 83 postulants, comme d'habitude au Cameroun. Enfin, il paraît que depuis hier, il n'y a plus que 5 postulants. La shortlist, elle est vraiment... Vous avez quelque chose?
Je suis pas au courant.
Non, ouais, c'est ça, décidément, vous... Non, j'ai pas de bol, hein. Finalement, je me suis trompé de joueur. Alors, après tout, qui êtes-vous, Karl Toko Ekambi? Marié, m'a-t-on dit, père d'un petit garçon, amateur de plats du pays. Enfin, finalement, on m'a dit des pâtes, surtout. Donc, c'est mondial comme plat. Un homme discret, casanier, taiseux. Et un footballeur pas vraiment comme les autres, quand même. Alors là vraiment, j'en revenais pas. Rendez-vous compte, vous qui nous écoutez à Yaoundé, Douala, Abidjan, Dakar, Bamako, Kinshasa, Ouaga, Bobo, enfin surtout dans le quartier Coco, en zone 4. KTE, comme on le surnomme, ça c'est vrai.
Oui, c'est vrai ça.
Il joue au foot et avant le match, quand il arrive au stade, il a pas de casque sur les oreilles. Ça c'est un truc de dingo. C'est le seul joueur de foot que je connaisse qui sort du bus, il a pas de casque sur les oreilles, il se concentre tout seul, il a pas besoin de musique. Bon, hein, c'est le premier truc. Autre chose, en janvier, on propose 14 millions d'euros pour qu'il s'en aille. C'est Brighton en Angleterre. C'est la moitié quand même du budget du club. Il y a des touches en Chine aussi. Et on sait qu'en Chine, les joueurs de foot n'y vont pas que pour l'argent. Eh ben lui, Carl, il dit non. Il s'en moque de tout ça. Il dit le club est pas sauvé. Je vais rester. Ça, c'est aussi pas très original quand même. Enfin bon, c'est très original pour un joueur de foot. Et attendez, j'ai encore mieux. Il est même pas sur les réseaux sociaux. Alors ça, j'en revenais pas. Il paraît que Serge Aurier a voulu l'initier à Periscope, mais intelligemment, il a refusé. Twitter, Facebook, Instagram, nada, j'ai cherché. Un hashtag, un like, il sait pas ce que c'est. C'est vrai?
J'ai Instagram.
Quand même. Bah, vous voulez que je vous dise, quand on sait tout ça, c'est justement pour ça qu'on est content de vous avoir ici, avec Samir, votre agent bienveillant sans lequel vous ne nous parleriez sans doute pas, avec vos proches qui sont pas loin, avec vos potes, avec Habib, avec Christophe Jousset, avec le Réfé, avec Annie Gasnier. Eh ben, nous, on est ravis de vous accueillir. On ne doute pas que vous ayez des tas de choses à nous dire. Va falloir quand même en dire, hein. Faites un effort. Et le réseau ici, il n'est pas social, il est juste amical. Et c'est déjà pas mal.
Et c'est mieux.
Karl Toko Ekambi, vous vous reconnaissez justement dans ce portrait? Qu'est-ce que vous aimeriez, sur quoi vous aimeriez rebondir? Quel est le trait peut-être de votre personnalité qui vous a plu d'être décrit?
Bah, je trouve que c'est une bonne description. Après, le mieux à faire, c'est d'être soi-même. Après, bon, peu importe comment on me décrit, moi, je reste sur ma ligne de conduite et pour l'instant, ça me réussit, donc je pense que je vais continuer sur cette lancée.
C'est le danger qui guette les footballeurs de ne plus être soi-même?
Non, après, chacun fait comme il veut. Et après, je pense que des fois, on abuse un peu trop avec les footballeurs. Je pense qu'il y en a qui jouent pas au foot, mais qui ont le même comportement qu'un footballeur. C'est juste qu'un footballeur, c'est médiatisé, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais bon, après, je pense qu'il faut plus laisser les footballeurs tranquilles.
Christophe?
Ouais, je voulais juste revenir sur ce groupe de rap là. Vous reniez ce que vous avez fait ou vous l'assumez totalement? Vous êtes encore dans le rap? Comment ça se passe?
Non, pas du tout. C'est une page de ma vie qui est tournée, tout simplement. Je pense que je suis pas venu ici pour parler de ça et je trouve que voilà, ça a rien à voir avec mon ascension au football ou avec ma carrière. Donc c'est pour ça que je trouve que ça sert à rien d'en parler, tout simplement.
Habib, quelque chose dans la personnalité qu'a développé Olivier qui vous a particulièrement accroché?
Bah, j'aime surtout la façon dont c'est écrit, parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a du compliment, il y a du sarcasme, un petit peu comme les Olivier Pron, ça on le sait. Ce qui est sûr, c'est que ce que doit pas changer Karl, c'est surtout la passion qu'il a pour son métier. Parce qu'il faut jamais perdre de vue que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est parfois critiqué pour notre mode de vie, mais il faut jamais oublier qu'on est des passionnés avant tout. Et je crois que le grand danger qui guette le footballeur, c'est d'oublier que le football est sa passion. Quand ça devient quelque chose de pour être vu, pour être, comme on dit sur les réseaux sociaux, plus bling bling, C'est là que vous perdez un petit peu le fil. Et je crois qu'aujourd'hui, quand il a résumé, par exemple, qu'il y a 14 millions Brighton qui vient, ça peut paraître beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça peut aussi avoir envie de, il peut avoir envie de se dire, bon, bah, je vais tripler, quadrupler mon salaire. Non, il est resté à Angers. Il a aidé ce club à se maintenir. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fin de saison, s'il venait à partir, ça sera peut-être pas Brighton. Ça sera peut-être un club beaucoup plus important. Ça sera peut-être encore plus d'argent pour lui. Et je crois qu'il a fait le bon choix. Et ça, c'est un choix de la passion.
Olivier, ça vient de votre éducation, ça vient de vos parents, le fait d'être comme ça, équilibré, posé, de se dire, voilà, je suis dans un club, il est pas sauvé, je vais rester 6 mois de plus, le fait d'être à l'écart des réseaux sociaux, de dire que le rap c'était une époque de ma vie, mais maintenant je parle foot.
Oui, ça vient des parents, et après moi-même je suis père à l'heure actuelle aussi, donc faut que je fasse attention à tout ça. J'ai une famille et il faut faire les bons choix, je pense, pour sa famille. Donc j'ai mis du temps avant de prendre ma décision, mais bon, je pense que c'était la bonne pour moi et pour le club qui m'a permis de découvrir la Ligue 1. Donc je suis reconnaissant envers mon club. J'avais pas envie de partir et de penser qu'à moi et qu'à la fin de la saison Angers soit en Ligue 2. Donc je pense qu'on a fait le bon choix ensemble avec mon club, avec mes parents, mon entourage et mes agents. Je pense qu'on a fait le bon choix.
Christophe,
c'était une décision que vous avez prise rapidement, parce que c'est vrai, comme le disait Habib, on peut tous imaginer se retrouver dans cette situation, avoir l'opportunité de multiplier son salaire par 2, 3, 4, 5. Vous, ça a été pris en combien de temps, cette décision? Vous avez hésité?
Non, elle a été prise en 5 minutes.
5 minutes?
Ouais, vraiment en 5 minutes, parce que je joue déjà en Ligue 1, on gagne assez bien notre vie, je pense, déjà en Ligue 1, donc j'avais pas besoin immédiatement d'avoir beaucoup d'argent ou quoi, donc la décision a été très rapide à prendre.
En tout cas, la discrétion, eh bien, c'est le premier trait de votre personnalité que remarquent vos camarades, notamment vos camarades de vestiaire. Et David Kalfa, qui s'est rendu à Angers il y a quelques jours pour vous rencontrer, a rencontré un de ses camarades, il s'appelle Jeff Ren Adélaïde.
Quand je suis arrivé, il était très discret. Maintenant, on est liés d'amitié, je pense, et il se lâche un peu plus avec moi. Et donc, comme il se lâche un peu plus, il commence à trop prendre la confiance, à me frapper un peu trop, parce que je suis plus jeune que lui. Mais après, niveau humain, c'est quelqu'un de top et il mérite ce trophée.
C'est une drôle de manière d'être ami, de taper quelqu'un.
Ah bah après, on a tous nos liens d'amitié et lui, il m'aime bien en me frappant, je pense.
D'accord, ça s'appelle l'amitié, va.
Passion, c'est quelqu'un de très discret, hein, Carl Toko Nkambi. Hein. Ses passions, je sais qu'il aime le rap. Ah si, ouais. Il aime le rap. Je sors pas trop dans le vestiaire, c'est dommage. J'aimerais bien qu'il me fasse une petite chanson avant que je reparte. Mais oui, il aime le rap.
Vous savez quel groupe ou quel rappeur il préfère ou pas?
Je crois qu'il rappe en solo. Donc ça doit être lui son rappeur préféré, je pense. Si je le compare à un rappeur, je verrais par rapport à... Je dirais Booba.
C'est
Booba.
Le côté violent qui vous fait dire ça?
Oh, c'est quelqu'un de très violent avec moi, donc ouais. Ouais, Booba.
J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça paname. T'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses sont les victimes. Que des numérotés dans ma tête. Tu rêves d'être numéro 10 comme nous. Que la rue t'applaudisse, trappeur régisse comme nous. Ballon d'or grâce à mes tacles à la gorge, mes crochets. Ok, je mets mes dièses. Roi du monde de talent, je te baisse. Là où j'opère, nombreux seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team.
Carl Toko Nkambi, alors c'est qui aime bien châtie bien avec vous quand passez le stade de la discrétion. Il a raison, votre copain Jeff.
Il a raison, sauf qu'il a pas tout dit. Je le tape pas pour rien. Je le tape pour lui, pour son bien, parce qu'il fait il fait des conneries.
Bon, alors, en tout cas, vous leur servez aussi d'exemple, vos camarades de vestiaire, parce que David Kalfa a rencontré un autre de vos collègues, le milieu défensif Thomas Mangani, et lui, il est devenu un peu plus sérieux quand on parlait de vos talents de joueur.
Il est apprécié de tous et on a surtout apprécié le fait qu'à Noël, il refuse des offres pour rester avec nous. Je pense que ça a été un message fort et c'est pour ça qu'on est content pour lui et de sa réussite. C'est par son attitude qu'il montre l'exemple. C'est un leader technique, leader au niveau de la compétition. Donc voilà, il est très important pour nous. Ça se voit au niveau des statistiques, mais c'est aussi très important au sein du vestiaire. Donc on est content parce que qu'il soit à gauche ou qu'il soit dans l'axe, il marque des buts. C'est vrai qu'il en marque plus dans l'axe et il s'y sent bien. Ça, c'est un plus. Il a cette polyvalence et voilà, c'est vrai qu'il est très efficace. On s'attendait pas à autant de buts parce que quand on joue le maintien, c'est difficile d'en mettre autant. Mais c'est vraiment génial et ça prouve toute sa qualité. On est content quand les gens qu'on apprécie réussissent. Donc c'est super, ça va être bien pour lui, ça va être bien pour le club et nous on lui souhaite toute la réussite qu'il mérite.
Alors il souhaite toute la réussite. Sur cette saison d'Angers, donc la meilleure pour vous et surtout la meilleure en Ligue 1, est-ce que ça soude quand on lutte pour le maintien ?
Oui, ça soude. Après, la différence, je pense, avec les autres, c'est qu'à Angers, je pense qu'on n'avait même pas besoin de jouer le maintien pour être soudé parce que c'est un bon groupe. Les gens s'entendent bien, tout le monde s'entend bien et je pense que même si on jouait pas le maintien, on aurait été pareil et peu importe notre objectif, on aurait fait une belle aventure dans ce championnat, je pense.
Habib ?
Non, mais c'est surtout que s'il n'est pas là, s'il n'est pas Angers, Angers descend peut-être en Ligue 2. Ça, c'est important de le dire. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont des joueurs capables justement de transcender une équipe, de porter une équipe. C'est ce qu'il a fait. C'est aussi à ça qu'on voit la qualité d'un attaquant. Lorsqu'on dit qu'il a été replacé dans l'axe, moi, je crois qu'il a toutes les qualités pour le faire parce que le problème qu'il pouvait avoir sur le côté, c'est que c'est un joueur qui est très tonique, qui a beaucoup de vitesse, qui a une grosse débauche d'énergie. C'est que quand vous devez éliminer et ensuite vous réaxer pour frapper, vous avez moins de lucidité. Lorsque vous êtes dans l'axe, vous vous retrouvez dans la zone de vérité très très rapidement et lui, comme il a cette qualité technique, il a dû aussi soigner sa finesse devant le but parce que c'est aujourd'hui la statistique qui montre qu'il y a une vraie progression dans le 1 contre 1 avec le gardien, dans sa faculté à mettre des buts. Donc je crois qu'il est parti pour être dans cette progression et peut-être s'installer à ce poste-là. Je trouve que pour moi, il est beaucoup plus efficace dans l'axe parce qu'il a cette qualité-là pour éliminer.
Alejandro, justement, efficacité et but, vous vouliez en parler.
Oui, parce que Habib dit 17 buts, c'est déjà énorme, mais ce qui est encore à mes yeux plus remarquable, c'est que sur ces 17 buts, 12 ont été des premiers buts pour Angers. On sait que souvent le premier but est le plus difficile à marquer, c'est lui qui peut décider du sort d'un match. Et dans cette statistique-là, vous êtes deuxième du championnat de France. Il n'y a que Mario Balotelli qui a fait mieux avec 13 premiers buts. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne la mesure de l'importance que vous avez dans cette équipe.
Vous le saviez, vous connaissiez cette statistique, vous aussi ?
Non, pas du tout.
Non,
et on est là pour ça.
C'est nous, les journalistes, qui disséquons votre carrière. Olivier ?
Angers a été pendant longtemps, je crois toute la première partie de saison, la pire équipe à domicile. Et vous disiez tout à l'heure, on était un bon groupe et tout, mais ce groupe-là avait du mal à s'exprimer devant son public. Qu'est-ce qui fait que voilà, ça se passait si mal à la maison ?
Bah, peut-être comme on avait fait une bonne fin de saison l'année dernière, surtout à domicile, je pense qu'on était un peu trop joueurs à la maison et on se faisait punir. Alors que je pense que ça, justement, c'était notre marque de fabrique l'année dernière où on punissait les autres équipes et là, on avait inversé les rôles. Et donc, en janvier, on a remis les compteurs à zéro, on a refait comme on devait faire et là, maintenant, à domicile, on est beaucoup mieux.
Ils ont bien travaillé aussi, il faut dire, le travail de l'entraîneur Stéphane Moulin. Ils n'ont pas cédé justement à cette panique parce que beaucoup de clubs auraient pu limoger justement l'entraîneur. Ils l'ont gardé. Je crois qu'il y a un très très bon travail qui est fait en termes de recrutement. Ils sont allés rechercher Butel et Onyangé aussi au mercato d'hiver, ce qui a apporté une plus-value à cette équipe. Et puis je crois que vous aviez votre stade en travaux, qui n'était pas forcément une bonne chose pour Angers lorsque vous jouez à domicile. Mais c'est une équipe qui en tout cas en termes de travail a une bonne, pour moi, une bonne homogénéité dans la faculté de garder ses éléments, de faire confiance à un entraîneur qui a été en difficulté. Aujourd'hui, on voit que ça a porté ses fruits.
Justement, l'entraîneur, on va l'entendre, c'est Stéphane Moulin. Et David Kalfa l'a rencontré à Angers quand il est venu vous voir et il parle de vos qualités.
J'ai toujours cru en son potentiel et en Karl. Après, il était parti pour jouer sur le côté, donc il est évident que il a marqué beaucoup de buts depuis qu'il a été remis dans l'axe. On n'était pas parti pour ça en début de saison. Les choses ont fait qu'il s'est imposé quand il a au départ dépanné à ce poste-là. Et il a été tellement efficace et tellement performant qu'il était devenu difficile de le remettre sur le côté. Et je pense que ça aurait été aussi nous enlever des armes. Donc il était hors de question de s'affaiblir. Et on a vu la mesure qu'il a prise. Mais dans le football, il n'y a jamais rien de figé, il n'y a jamais rien de définitif. Et puis aujourd'hui, il n'est plus le même joueur qu'il était quand il est arrivé chez nous. À la fois physiquement, techniquement, mentalement aussi. Il a beaucoup travaillé. Je trouve qu'il a énormément progressé aussi dans son volume de course, dans l'intensité de ses courses. il a toujours fait ce qu'il fallait pour progresser. Il est venu avec des qualités, il avait des qualités naturelles, il s'est pas transformé en venant chez nous. Mais il a mis beaucoup de choses en plus dans son jeu qui l'ont rendu aujourd'hui ce qu'il est devenu. Et j'espère que sa progression va se poursuivre ailleurs, parce qu'à un moment donné, je considère qu'aujourd'hui, il a toujours des choses à apprendre chez nous, mais il les apprendra d'autant mieux et d'autant plus vite que lorsqu'il il évoluera avec des joueurs d'un niveau encore supérieur. Il a peur de rien ni de personne. Moi, je le vois aller très haut. Évidemment, s'il reste dans cet état d'esprit, ce que je ne doute pas, et s'il continue de travailler avec, avec la volonté de progresser, il va encore franchir des paliers pour arriver, je suis certain, à un haut niveau.
Clairement, un entraîneur avec qui vous étiez en pleine confiance.
Oui, en pleine confiance. Et je pense qu'on était, on échangeait beaucoup. On a beaucoup échangé depuis que je suis à Angers. Et je pense que c'est un entraîneur qui m'a fait progresser avec mes coéquipiers aussi. Et ça se passait très bien avec tout le monde, avec le président, le manager général. Et je tiens à les remercier pour ça. Et moi, bon, j'espère que cette aventure angevine va bien se terminer si elle se termine.
Christophe ?
On a bien compris que, en fait, vous avez forcé votre entraîneur à vous conserver dans l'axe quand le test a été fait. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette position sur le terrain ?
Bah, j'ai pas forcé mon entraîneur, c'est juste que j'ai eu une discussion avec lui où je lui ai dit que je pense que c'est le moment où je peux évoluer dans l'axe, où je peux passer dans l'axe, et que je lui ai demandé de me faire confiance et que j'allais répondre à sa confiance, et on a réussi à le faire. Et après, ce qui me plaît dans ce poste-là, c'est que j'ai plus une zone du terrain occupée, mais j'ai les trois parce que je suis dans l'axe et je peux aller à gauche et à droite. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup les espaces, donc je me sens vraiment très à l'aise et ça me permet de jouer avec mes coéquipiers, de combiner avec tout le monde et d'aider mes coéquipiers à aller de l'avant.
Vous marquez surtout du droit. Dans quel domaine vous pouvez le plus vous améliorer, à votre avis ?
Je pense que je peux m'améliorer un peu dans tous les domaines. Après, je marque du droit parce que c'est les situations qui font que je dois marquer du droit. Après, voilà, je pense que je peux m'améliorer de la tête, on va dire.
Ouais, vous êtes grand, ça devrait pouvoir se faire. Vous avez le gabarit pour.
Après, c'est pas la taille qui fait le talent pour la tête, je pense.
Vous savez, j'ai rarement vu Alain Giresse marquer beaucoup de buts de la tête, hein, cela dit.
Non, il y a des petits qui sont très bons de la tête. Benjamin Nivelle est bon de la tête.
Des fois, il est plus important de progresser dans son point fort que d'aller chercher les faiblesses. On parle de Thierry Henry. Thierry Henry a toujours dit que pendant toute sa carrière, il n'était pas un joueur de tête. Il ne s'est pas non plus acharné à travailler de la tête. Il s'est acharné à travailler ce qui était son point fort, c'est-à-dire les frappes pieds droits enroulés. Et ça a fait sa force. Lorsqu'on voit Lionel Messi, je ne suis pas sûr qu'il vienne à l'entraînement travailler son pied droit tous les jours. Il sait que sa force, c'est son pied gauche. Donc il le travaille encore et encore et encore pour redevenir encore plus fort sur son aspect fort. On a toujours tendance à vouloir travailler les points faibles, mais le point fort, il est important aussi de le garder à un niveau très élevé et pourquoi pas le rendre encore plus fort. Je pense que c'est ce qu'il a fait cette saison.
On vous sent presque triste que cette saison soit terminée. À vous entendre presque là, on a l'impression que vous avez une belle aventure qui se termine bien, en tout cas pour cette saison, hein, je précise bien, puisque vous avez l'air de dire qu'elle se termine peut-être pas forcément à Angers. On va en parler de l'avenir, mais c'est vrai, il y a un sentiment là en fin de saison comme ça de se dire, ah, on est une bonne bande, on continuerait bien encore un peu.
Oui, après moi je vous parle comme ça aussi parce que j'ai pas l'habitude qu'on parle autant de moi, donc forcément
on est là pour ça, hein.
Ouais, il y a pas de souci.
Vous encore êtes 22 aussi minutes. Pour ça.
Oui, c'est clair. Après non, franchement la saison elle va se terminer. Je suis content parce qu'il faut aussi qu'on se repose. J'étais pas habitué à faire autant de compétitions internationales comme ça. Donc je suis un peu fatigué, donc voilà, je pense que je vais bien me reposer cet été.
Alors Karl Toko Ekambi, il y a une chose aussi, c'est que samedi c'était le dernier match de la saison pour Angers à domicile. Malheureusement ça s'est terminé par une défaite face à Nantes, mais ça c'est sans doute anecdotique parce que les supporters vous ont fêté et on va les entendre, ces supporters. Il y a le SCO 1919, il y a aussi le COP de la Butte 1992, hein, c'est ça notamment, les groupes de supporters d'Angers, écoutons-les. Alors, à la 7e minute, vous portez le numéro 7, ils vous ont encouragé, ils vous ont applaudi, et ensuite, c'est vous qui menez un clapping. C'est une habitude aussi, c'est devenu la mode, les clappings maintenant, avec les supporters.
Oui, chez nous, on le fait quand on gagne. Et généralement, c'est le joueur qui a marqué, qui fait le clapping. Donc je l'ai fait cette saison, mais je déléguais souvent à mes collègues.
Oui, ça colle pas avec le personnage, hein, le clapping. On vous voit mal là venir devant tout le monde et tout d'un coup lancer un clapping.
Si, je le fais, là, mais comme je marquais souvent, j'allais pas le faire tout le temps et je marque pas tout seul, donc je préférais laisser mes collègues le faire aussi.
Et vous en donnez un trophée aussi avant le match. Il y a eu une petite fête en votre honneur avec les supporters.
Oui, dans la semaine, j'ai eu le trophée du meilleur joueur angevin de la saison.
Mm-hmm. Alors, votre personnalité, on parle de discrétion. Il y a une chose sans doute pour laquelle vous êtes discret, c'est aussi votre grand cœur, et notamment du côté de l'Afrique, que vous ne regardez pas, heureusement, seulement à travers la sélection camerounaise et à travers un ballon. Écoutons le témoignage de votre copain du Paris FC, Baboy Traoré.
C'est quelqu'un qui fait les choses sans se montrer, en fait. Il est très généreux et il est très humble aussi. C'est qu'il va faire beaucoup de choses, mais il ne veut pas forcément que ça se sache. Il participe même dans des pays d'Afrique qui ne sont même pas de ses propres racines. Il fait construire des puits, il fait beaucoup de choses caritatives que personne ne sait. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne compte pas par rapport à ça. Il sait d'où il vient, il sait que là aujourd'hui, il a le succès qu'il a, mais il n'oublie pas forcément les gens qui sont entre guillemets en dessous, qui sont dans le besoin. C'est pas quelqu'un qui est là, qui pense à s'acheter une grosse montre, une grosse voiture et voilà, ne fait rien à côté, non.
Vous faites des choses à côté, vous les faites discrètement, vous y tenez?
Oui, après, je les fais parce que j'ai envie, parce que les gens sont dans le besoin, je les fais pas pour dire que je les fais, donc c'est pour ça que j'en parle pas, c'est pas...
Comment ça s'est passé? On vous a sollicité ou c'est de vous-même, vous avez cherché à agir avec des associations?
Oui, c'est de moi-même qui cherche à agir avec des associations et qu'on me sollicite et que je trouve ça intéressant, je le fais.
Vous vous êtes déplacé à l'occasion de ces dons ou vous le faites d'Angers?
J'ai pas encore eu le temps de me déplacer, mais je pense que je me déplacerai bientôt. Mais après, je délègue des amis et tout pour se déplacer, pour le faire.
À travers une association particulière?
Non, plusieurs associations.
Plusieurs associations. Pas qu'une seule, ouais. D'accord. Alors, on va peut-être maintenant parler d'une chose, c'est votre futur. Olivier l'évoquait tout à l'heure, vous disiez c'est peut-être pas fini avec Angers. En tout cas, est-ce que le SCO est un tremplin? Il y a un illustre prédécesseur au SCO d'Angers qui peut-être pourrait vous donner des idées. Dites-nous si vous reconnaissez la voix.
Je me suis fait remarquer par le SCO d'Angers et l'examinateur à cette époque-là, je me souviens, au concours de tout à l'heure, c'était monsieur Camille Cotin, qui était à l'époque entraîneur du SCO d'Angers, ce qui m'a permis de signer au SCO d'Angers à l'âge de presque 18 ans.
Ce fut un très grand joueur français. Il a joué au SCO d'Angers quand il était jeune, il le dit, à 18 ans. Et il est décédé l'an dernier. Vous jouez dans le stade qui porte son nom désormais. C'était Raymond Coppa.
Raymond Coppa.
Exactement. Et aujourd'hui encore, évidemment, on garde la mémoire. Alors, ça peut vous servir de tremplin, ce SCO d'Angers?
Oui, ça peut. En tout cas, je l'espère. C'était le projet quand j'ai signé au SCO d'Angers, donc j'espère qu'on va réussir ensemble ce projet.
C'est quoi votre rêve? Vous aimeriez jouer où? Parce qu'il a joué au Real Madrid, Raymond Coppa.
Il a joué au Stade de Reims, ne l'oubliez pas aussi.
Aussi.
Je vais faire comme Raymond Coppa, je vais jouer au Stade de Reims.
Stade de Reims qui remonte en Ligue 1.
On se voit beaucoup la saison prochaine,
en Ligue 1
on se
cette année. Plus sérieusement, on sait que vous avez plein de sollicitations. Est-ce que vous avez une idée, un rêve? Est-ce que vous avez aussi des limites, peut-être des pays dans lesquels vous ne voudriez pas aller?
Non, moi, j'ai pas de rêve. Moi, je pense que je crois beaucoup en ce que je vois. Donc, je vais regarder les projets qu'on va me proposer et c'est à partir de ce moment-là que je vais me décider. Mais bon, après cette partie-là, je la laisse à mes représentants. Donc, moi, pour l'instant, je dois finir ma saison tranquillement et aller me reposer au soleil si je peux. Attendre.
Il reste un match contre Dijon.
On peut donner quand même une liste qui n'est pas exhaustive, mais des noms de clubs qu'on entend régulièrement qui s'intéresseraient à vous. Il y a Marseille, pour rester en France. Marseille,
ça vous dit quelque chose?
Il y a un match qui compte, je crois. C'est quand le match qui compte? C'est après-demain, oui, c'est ça, une petite finale. Et comme Habib n'en a pas gagné souvent, il sera devant son canapé pour espérer et que cette fois ça gagne. Villarreal, Everton, Schalke 04, Hoffenheim, la Lazio de Rome. Voilà, pour pour tout ça avec des chiffres. Alors dans le football moderne d'aujourd'hui, on pourrait même dire le football circus, les chiffres ne veulent plus dire grand chose, mais on dit entre 15 et 20 millions d'euros, c'est quand même une certaine somme, surtout pour un club comme Angers dont on rappelle le budget annuel, 28 millions d'euros. Ça veut dire que quand on a quelqu'un comme Karl Toko Ekambi susceptible d'être acheté, on va dire aux alentours de 20 millions d'euros, c'est vrai qu'il y a le club déjà peut s'intéresser. Puis après, vous, quand on a une multitude de choix, alors vrai ou pas vrai, mais en tout cas il y a forcément une multitude de clubs, on les connaît pas tous, mais qui s'intéressent à vous. Ça, on dort à peu près bien?
Oui, je dors très très bien.
J'en doute pas.
À part quand mon fils se réveille la nuit, mais sinon ça va. Donc, je suis content en tout cas de ce que vous dites par rapport à ces clubs-là, des intérêts qui sont évoqués. Et voilà, comme je vous disais, je vais attendre.
La Chine, c'est trop loin?
Non, ça va, c'est pas très loin, mais c'est juste que j'ai pas envie d'y aller.
Ah, donc ce ne sera pas la Chine.
Il est vraiment bien.
Parce que la Chine était intéressée.
Je sais pas du tout. Je sais pas au courant.
C'est ce qu'on a lu.
C'est ce qu'on dit, oui.
Mais la Chine s'intéresse à tout le monde.
Oui.
Non, mais pas à 25 ans. Après, j'ai pas de conseils à lui donner.
Évidemment.
Quand on a 25 ans, on peut aller dans un club aujourd'hui. Je crois que ça, dans sa progression, il faut surtout trouver un club où il va jouer. Où il aura la garantie. On ne vous offre jamais la garantie de jouer, mais de dire qu'aujourd'hui, l'entraîneur qui vous recrute ou le directeur sportif compte sur vous. Et puis après, il y a le potentiel aussi de jouer la Ligue des Champions. Pour des clubs qui sont qualifiés pour cette compétition, on sait que pour un joueur, c'est une vitrine exceptionnelle. Il y a des joueurs qui se sont révélés sur cette scène. On pense à Drogba, par exemple, quand il arrive de Guingamp, il arrive à Marseille, et il n'a pas joué la Coupe d'Europe, il arrive à Marseille. Ce qui fait que Didier Drogba ensuite est transféré à Chelsea, c'est parce qu'il brille en Ligue des Champions, il brille en Coupe d'Europe, et c'est ce qui a aussi révélé son talent. Donc je crois que pour sa progression à lui et sa continuité dans les statistiques,
il faut aller à Marseille.
Non, mais Marseille, si Marseille est qualifié pour la Ligue des Champions, déjà d'une, c'est un stade qui transcende, où il y a une atmosphère exceptionnelle pour jouer. Après, encore une fois, c'est lui qui fera son choix. Mais il faut qu'il joue.
Vous êtes net.
Karl Toko Ekambi, cet hymne, il vous fait kiffer, comme vous dites, quand vous parlez des choses qui vous plaisent?
Ouais, ça me fait kiffer. Je l'entends souvent quand je joue à la Play. Et maintenant, si je peux entendre en vrai, ça va.
Vous êtes plutôt Xbox ou PS4?
PS4.
Ça, c'est mes jeunes collègues qui voulaient que je vous pose la question. Ça serait
un... m'en offrir une.
Là, il faut demander au service de com, là, de RFI. Moi, je suis pas très spécialiste, mais la Ligue des Champions, ça serait quelque chose qui vous ferait rêver tout de suite ou qui vous fait rêver à plus long terme?
Je pense que c'est une question que...
C'est un des critères?
Si vous la posez à n'importe quel footballeur, je pense qu'il vous dira tout de suite.
Vous vous sentez prêt?
Oui, moi je me sens prêt. Moi j'ai peur de rien. J'ai toujours... on m'a jamais facilité en quelque sorte. J'ai toujours cassé des portes pour arriver où je suis. Donc s'il faut que je continue, je vais continuer. Et moi, dans la vie, si tu ne tentes pas, tu peux pas réussir. Donc moi, je suis prêt à tout.
Vous êtes natif de Paris, est-ce que, comme beaucoup de Parisiens, le PSG, à un moment ou à un autre, ça vous fait rêver ou ça évoque quelque chose de particulier pour vous?
C'est ma ville natale, c'est la ville où j'ai grandi, c'est un club que je supporte. Après, je rêve pas de jouer au PSG, mais bon, c'est un club que je supporte et que, parce que je suis parisien, donc oui, je suis ce que fait le PSG sur la scène européenne, oui.
On s'en sort bien parce que il y a un mois ou deux, il a donné une interview à un confrère qui à un moment lui demande, au moment où on lui parle de son avenir, le confrère lui dit: vous aspirez à quoi? Et Karl lui répond: là tout de suite, à rentrer chez moi. Donc déjà déjà il est resté, c'est quand même un grand grand progrès pour nous.
Et il ose aussi dire à côté de d'Abib qu'il est parisien et qu'il supporte le PSG. Donc
vous savez, ça me dérange pas.
Parce que vous avez été formé au PSG aussi, exactement, je rappelle Abib, donc finalement on peut être les deux. Christophe?
Mais où qu'il aille, où que Karl aille l'année prochaine, ce sera une bonne nouvelle a priori pour Angers, parce que ils vont vendre leur attaquant cher. Pour le moment, le record à la vente d'un joueur du SCO d'Angers, c'est Nicolas Pépé quand il est parti à Lille, et c'est 10 millions d'euros. Là, vous entendez les chiffres qui ont circulé, 15-20 millions d'euros. Vous allez faire un beau cadeau quand même à votre club aussi. Je sais bien que c'est un échange, hein, entre les deux, mais vous allez laisser un beau cadeau derrière vous.
Non, après ça me concerne pas, ça c'est entre clubs, donc je pense que si on m'achète, c'est mon futur club qui fera un beau cadeau à Angers et pas moi. Moi, ce que je peux faire à Angers, c'est de les garder dans ma tête et de toujours penser à eux et de jamais oublier ce club-là. C'est ce que je peux faire. Après, financièrement, je peux rien faire pour eux.
Ça veut dire qu'il a un agent qui a du nez aussi, parce que Nicolas Pépé est, je crois, avec le même agent que le vôtre.
Hein. Oui, c'est ça.
Vous êtes donc le lauréat du prix Marc Vivien Fouet comme meilleur joueur africain de Ligue 1. Et on va s'intéresser bien à votre carrière aussi avec les Lions Indomptables.
Toko Ekambi, ah, il est accroché par Ngoum, penalty. Faute d'Oda Ngoum, pris par la vivacité de Karl Toko Ekambi. Benjamin Moukandjo face à Jobert, la lucarne. Yongo, voilà, tête et le rien, le deuxième but. Ah, Karl Toko Ekambi, il est récompensé de son bon match. Langevin, il vient couper la trajectoire de ce corner d'Ambroise Yongo.
Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce.
Alors, il y a eu votre premier but, c'était contre la Gambie. Vous vous en souvenez de ce premier but ?
Oui.
C'était un moment. Comment vous l'avez ressenti ? Vous avez été acclamé par le public ce jour-là. Comment vous avez ressenti ce premier but sous le maillot des Lions Indomptables ?
Bah, j'étais ému, j'étais très fier parce que il y avait mon père en tribune qui vit au Cameroun, lui. Et marquer ce but-là devant lui, qui était venu avec ses amis et ma famille, c'était fort, c'était émouvant.
Et puis dans la sauce, alors c'est l'hymne aux champions d'Afrique, c'est ça ?
Oui, c'est un son qu'on a beaucoup écouté pendant la CAN.
Pendant la CAN et ensuite, parce que lorsque le Cameroun gagne ce trophée au Gabon, à Libreville, dans la finale, donc face à l'Égypte, vous avez dû aller faire la fête au Cameroun, c'est ça, avec tous vos camarades et tourner pour présenter le trophée dans le pays ?
Oui, on a fait un tour de ville avec le trophée. C'était très long. Il faisait très chaud, mais c'était bien. J'avais jamais vu la ville comme ça auparavant. Et je pense que ça a laissé une trace au pays, surtout que personne s'attendait à ce qu'on gagne cette compétition. Donc c'était fort.
C'était un moment. Vous avez dû découvrir des choses ou apprendre des choses, peut-être aussi, je sais pas, des coutumes, des chansons du côté du Cameroun.
Non, je connaissais déjà. Je connaissais déjà bien mon pays.
Vous connaissiez. Christophe.
Olivier Piqueux, qui est le manager général du SCO d'Angers, dit que quand vous êtes revenu de la CAN, il a vu un autre joueur. Qu'est-ce que ça a changé chez vous ? Est-ce que la formule est bonne ? Est-ce que sa perception à lui est bonne ? Ça vous a beaucoup changé ?
Bah, je pense que ça m'a amené une expérience en plus. Et j'ai vécu à la CAN j'ai vraiment vu ce que c'était un vrai groupe qui a eu peur de rien, qui a déplacé des montagnes, je veux dire. Donc après, j'ai essayé de réitérer les mêmes performances avec mon club et ça m'a rendu encore plus fort.
Oui, parce que vous avez été titulaire sur un match pendant le parcours de la CAN, mais c'est vraiment cette vie. On a beaucoup analysé la victoire du Cameroun comme celle de la force collective, effectivement, et ça vous a beaucoup nourri.
Oui, ça nous a beaucoup nourri parce que peu importe qui jouait, on était vraiment tous ensemble, personne n'a râlé. Les deux joueurs qui marquent en finale, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Et pourtant, c'est deux des plus grands noms de notre équipe, je pense. Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar. Donc, je pense que c'est un symbole aussi de notre compétition et de notre groupe.
Il y a deux, trois joueurs desquels vous êtes un peu plus proche dans le groupe des Lions Indomptables.
Je suis proche de tout le monde. Après, Adolphe Teke, avec qui j'ai joué à Sochaux. Donc, je suis vraiment proche de lui, ouais.
Habib, je vous ai vu sourire quand il a parlé du groupe. J'imagine que vous aussi, vous savez ce que c'est, ça. Un groupe, quand en plus on joue en France et qu'on fait partie d'une sélection en Afrique, il y a cette distance.
Oui, c'est une formidable histoire de vie, en fait, ce qu'on peut vivre en sélection. Je crois qu'il n'y a que la sélection africaine qui vous apporte ça. Moi, je me rappelle avoir connu un petit peu la même chose. Je suis reparti, en fait, de la CAN en Tunisie. Pourtant, on avait été éliminé en quart de finale. Mais je suis reparti dans mon club avec beaucoup de force. C'est vrai que ce sont des compétitions qui sont très difficiles, la Coupe d'Afrique. Eux ont eu la chance de la gagner. Je l'aime pas aujourd'hui parce qu'ils ont sorti le Sénégal en quart de finale. Donc là, c'est le seul moment où je suis moins pote avec Karl. Mais pour être plus sérieux, c'est vrai que c'est la victoire d'un collectif parce que personne voyait le Cameroun. Au vu de leur performance en phase de groupe, on les voyait en grande difficulté. Et après, c'est vrai que ils ont fait face à toutes les critiques. Et puis ils se sont unis tous ensemble. Et il l'a dit, lui était sur le banc, il est rentré parfois. Je trouve qu'il est très bien rentré dans cette compétition. Il a amené du peps aussi à cette équipe. Et c'est une vraie récompense pour ce groupe qui s'est construit un petit peu dans la critique. Donc à partir de là, ils ont remporté ce trophée. Ils ont eu la volonté de le faire parce qu'ils ont quand même sorti l'Égypte en finale. C'est pas n'importe qui. Et qu'à partir de là, ça reste à jamais un trophée africain. Moi, j'ai pas eu la chance de le gagner. Par exemple, je l'ai perdu en 2002 et c'est une grande déception.
Karl, quelle a été la réaction de vos camarades quand vous êtes rentré à Angers? Parce qu'en plus, on entend toutes les critiques des clubs et des championnats européens. La CAN est mal placée au mois de janvier, au moment où c'est important dans les championnats. Comment vous avez été accueilli, vous, quand vous êtes rentré à Angers et en plus champion d'Afrique?
Bah, franchement, très bien. J'étais assez surpris parce que j'étais resté en contact avec mes coéquipiers pour savoir comment ça se passait en championnat parce qu'on était en difficulté encore. Mais très bien, c'est très, très, très bien passé. Et en gros, en rentrant, moi, je leur ai dit en gros j'ai gagné, mais bon, je vais vite oublier et on va vite se remettre au travail parce qu'on a, j'ai une autre mission en gros.
Vous êtes content que la CAN ait été déplacée de janvier à juin? Parce que vous disiez, je suis parti pour la CAN 2017, un club qui lutte pour le maintien, c'est jamais bon de partir pendant un mois et demi. Le fait qu'on ait changé de date, ça vous convient?
Oui, ça me convient parce que je pense qu'il y a certains joueurs qui ont peut-être loupé des opportunités ou perdu leur place en club parce qu'ils allaient en sélection, alors que je pense que la sélection, ça doit être... Un joueur international africain, ça doit être énorme. Et là, je pense que des fois, c'était péjoratif. Donc, je pense que c'est bien pour les joueurs africains.
Alejandro?
Oui, le Cameroun, malheureusement, ne sera pas à la Coupe du Monde. Est-ce que vous allez supporter une équipe dans cette Coupe du Monde? La France, l'Argentine, peut-être.
Sénégal.
C'est bien. Voilà. Aussi. Voilà.
Vous rêvez, j'imagine, de jouer une Coupe du Monde quand même un jour.
Oui, si j'en ai l'occasion, oui, j'aimerais bien, oui.
Et les jours où vous avez été convoqué pour la première fois par les Cameroun, vous vous rappelez sans doute, vous avez hésité, vous avez pensé peut-être à ces genres d'opportunités?
Non, j'ai pas hésité parce que bon, le Cameroun, c'est une équipe africaine, mais c'est quand même une grande nation du football africain, donc forcément, j'ai pas hésité. En plus, j'évoluais en Ligue 2 à l'époque. Donc, je pense que c'était bien pour la suite de ma carrière, donc j'ai foncé.
Le Cameroun n'a pas de sélectionneur actuellement. Il y en a plusieurs qui seront. Alors, il y a une shortlist apparemment qui est sortie avec 5 noms, dont 2 Français, mais aussi que sont Philippe Troussier et Alain Giresse. Il y en a d'autres aussi. Vous, est-ce que dans ces cas-là, vous trouvez que c'est finalement important Le choix du sélectionneur? On sait que le Cameroun avait changé peu de temps avant la CAN, où finalement les joueurs viennent de loin et s'adaptent immédiatement.
Je pense que nous, on n'a pas le choix, je crois.
Faites confiance à la fédération.
Oui, on n'a pas le choix. L'entraîneur qui est en place, on vient, il nous sélectionne, on essaie de donner le maîtrisme, on maîtrise pas ça, en gros. En plus, on n'est pas tout le temps en sélection, on y va 2 ou 3 fois par an quand il n'y a pas de compétition, donc... Nous, on vient, on est sélectionné, on essaie de vite se mettre dedans parce que on joue chacun dans des clubs et des pays différents. On essaie de vite se mettre dedans et de faire en sorte de bien représenter le pays.
Apparemment, le prochain match, ça sera avec les étalons. Ça sera Burkina Faso, Cameroun, et ça se jouera à Paris le 27 mai prochain. Vous serez convoqué?
Il faut demander au sélectionneur.
Vous espérez?
Au futur sélectionneur.
Futur sélectionneur.
Finira bien par le connaître.
Il n'y a pas finalement de sélectionneur. Karl Toko et Kambi, j'espère que vous allez bien parce que c'est déjà fini.
Déjà?
Ouais. Bon, alors on vous a pas trop maltraité, vous n'êtes pas
non,
senti trop
ça
mal.
Va très bien.
Non.
Faire kiffer ma mère, c'est la plus belle chose. Vous pensez que vous l'avez fait kiffer là aujourd'hui ou avec ce prix? C'est vous qui avez dit ça, hein. Faire kiffer ma mère, c'est la plus belle chose que je puisse faire.
Ouais, je pense que je l'ai fait kiffer et c'est pas fini.
Bon, ben maintenant, il va y avoir la cérémonie de remise de ce prix. Marc-Vivien Fauet 2018. Voilà, des applaudissements. Il va y en avoir tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venu d'Angers participer à cette émission spéciale de Radio Foot International. Merci, messieurs camarades du service des sports. Merci, Habib.
Merci à vous.
Et puis, on se retrouve demain, chers auditeurs, pour parler de l'actualité sur la planète football. Merci à tous et à demain.